Dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous et à toutes. La nature, la vie des animaux sauvages, un peu comme si nous y étions. C'est ce matin avec le comptage du cerf qui a eu lieu et dont nous allons parler avec Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse. Le comptage du cerf, mais aussi les accidents de chasse. Différents accidents ont lieu dans d'autres départements. Comment réagit la Fédération des chasseurs par rapport à ces accidents? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces accidents? Et vous, qu'en pensez-vous? C'est à ce numéro pour intervenir.
05 55 52 37 38.
Jean-Marc Père, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Creuse pour une émission en première partie consacrée à un animal qui souvent nous fascine. Il s'agit du cerf. Avant d'aborder le comptage qui a eu lieu et pour lequel de nombreuses, très nombreuses personnes vous ont rejoint, parlez-nous un peu du cerf, de sa vie. De ses œuvres.
Le cerf, effectivement, c'est un peu l'animal roi des forêts là dans le contexte français. C'est un superbe animal, donc qui est un animal à la fois forestier et qui vit également aussi beaucoup dans les plaines. Sur son comportement, il a, comme beaucoup d'espèces, des comportements liés aux saisons. Là, on vient d'avoir la période forte pour l'espèce, c'est la période du brame, où là, effectivement, on a une activité importante, notamment des mâles, pour conquérir les biches. Et on a toujours à déplorer, lors de ces combats, qu'il y a toujours des animaux qu'on retrouve morts parce que ils se font pas de quartier pour pouvoir récupérer des biches entre eux. Donc c'est le dominant qui prend la part du gâteau et les dominés s'en vont. Et puis après, bon, on retombe après dans le classique. Les cerfs, à une certaine période de l'année, les mâles, en début d'année prochaine, vont s'isoler pour perdre leur bois. Ils sont pendant un certain nombre de mois tranquilles et pour assurer le refait, et on retombe après toujours vers les naissances à partir du mois d'avril-mai, et toujours le même cycle d'année en année.
C'est un animal qui peut vivre combien d'années? 15 ans, 20 ans?
Oui, on a des animaux qui peuvent vivre entre 15 et 20 ans, oui. Alors après un certain nombre d'années, automatiquement, ces animaux, on dit pour les mâles qui ravalent, tout simplement, parce que le refait de leur bois d'année en année se détériore, et on arrive simplement, dans certains cas, à avoir simplement des boutons. Comme les personnes âgées, ils ont des problèmes de dents, et généralement, oui, entre 15 et 20 ans, c'est déjà pas mal, oui.
Les 6 et 7 octobre dernier a eu lieu le comptage. Est-ce que c'est quelque chose qui a lieu tous les ans ou pas?
Alors, le comptage cerf, déjà, la Fédération des chasseurs de la Creuse adhère à l'Observatoire cerf du Massif Central, et les départements qui adhèrent ont les mêmes modalités de gestion, c'est-à-dire qu'on a un suivi au phare, un suivi au moment de l'écoute du brame, et tous les 6 ans, on fait un véritable comptage par corps qui s'effectue donc sur un week-end à partir des places de brame qu'on investit. On fait 4 observations de le matin, de le soir, et on essaie de recenser les animaux par corps, hein, avec des bénévoles. Donc ça s'est fait effectivement le premier week-end d'octobre. Sur deux départements, à la fois la Corrèze et la Creuse, puisqu'on avait 31 communes sur la Creuse concernées et 12 pour la Corrèze. En surface, c'est effectivement le plus grand comptage qu'il y a en ce moment en France, hein, puisqu'on couvrait quand même une surface cadastrée de près de 125 000 hectares et une surface boisée de 60 000 hectares, ce qui n'est pas rien, ce qui a nécessité effectivement à peu près 1000 bénévoles encadrés par des professionnels.
Oui, c'est toujours un grand moment, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté des résultats? Le cerf, il est bien présent en Creuse?
Il est bien présent, mais comme à l'habitude, les chiffres, on sort des chiffres pour la Creuse de 1400 cerfs, que ceci, que cela. Effectivement, bon, déjà, premièrement, c'est pas un comptage précis. C'est une méthode indiciaire qui nous permet de voir tous les... c'est comme toutes les méthodes, hein. Je veux dire, on est surtout sur des méthodes indiciaires qui nous permettent de dire si une population monte ou descend, on peut pas dire il y en a 282 ou 283. C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Donc, à partir de là, effectivement, on a un chiffre qui a augmenté. La seule chose, c'est qu'on oublie de dire, et ce qui est fondamental, c'est qu'en 2012, le premier comptage qu'on a fait en Creuse, on avait quand même 11 communes qui n'avaient pas compté, qui avaient boycotté le comptage. Lié à des différends, notamment c'était les communes qui étaient limitrophes au camp militaire, il y avait un différend à cette époque-là, et on a 11 communes qui n'ont pas compté. Donc effectivement, le chiffre, il ne peut qu'augmenter compte tenu de cet état de fait-là. Et quand on connaît les communes, automatiquement, si on reprenait, si on avait pu compter en 2012 sur ces 11 communes, je pense que le chiffre qu'on avait à l'époque serait beaucoup plus important. Aujourd'hui, on a compté sur toutes les communes, à part une exception sur la commune de Royères, mais néanmoins, on a quand même pu faire le nécessaire pour avoir quelques éléments. Mais il faut bien dire toutes les choses, parce qu'autrement, dire un chiffre et le sortir de son contexte, ça veut strictement rien dire.
Oui, donc ça veut dire que on peut pas dire aujourd'hui il y a une augmentation de la population.
Globalement, si, elle a augmenté. La seule chose, c'est qu'ils font pondérer les choses et tout simplement dire tout sur tout. Parce que si je prends le terme, si je prends le chiffre 1400 et je prends 500 et quelques là en 2012, je vais dire ils ont triplé. Ça veut strictement rien dire. C'est une grosse ânerie de dire ça. Simplement, il faut dire les choses comme elles sont. En 2012, on avait un nombre, mais on avait 11 communes qui n'avaient pas compté. Cette année, on a toutes les communes qui ont compté et on a un chiffre de temps. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, effectivement, la population a augmenté et les attributions augmentent et on a vraisemblablement des efforts à faire pour augmenter les attributions. Puisque c'est important de le rappeler, que ça soit tant vis-à-vis des intérêts agricoles que forestiers, que ça soit pour le cerf, que ça soit pour le sanglier, que ça soit pour le chevreuil, c'est les chasseurs eux-mêmes qui payent les dégâts causés par ces espèces-là dans un cadre réglementaire très précis. Et c'est, il n'y a pas de fonds publics qui alimentent. Il n'y a aucun fonds public, c'est-à-dire c'est uniquement les chasseurs. Revenons dans le contexte départemental, on a 7200 chasseurs. Hein. Généralement, c'est des professionnels, c'est comme tout un chacun dans le département, des gens qui ont des revenus relativement modestes. Et on ne peut pas, je veux dire, avoir une flambée des permis, tout simplement parce qu'on aura moins d'adhérents. Donc on se doit d'avoir une maîtrise, et c'est notre objectif, de maîtriser les dégâts dans le temps. Alors, effectivement, il y en a toujours trop dans certains cas, il y a beaucoup de trop dans, et c'est très disparate dans le contexte départemental, notamment sur le département, puisque vous avez des unités sur le nord du département en matière de sangliers qui arrivent seulement après les 20 sangliers, et vous avez des unités sur le sud de la Creuse où vous arrivez à plus de 500 sangliers. Donc, vous voyez que c'est, on est aux antipodes. Mais l'objectif prioritaire chez nous, c'est bien de gérer et de limiter l'impact, parce que tout simplement, on n'aura pas les moyens à terme de payer, c'est tout.
La gestion de ces animaux, mais aussi les accidents de chasse. Nous parlons de tout cela et nous en parlons également avec vous. Vous souhaitez intervenir soit sur la gestion des animaux, soit sur les accidents de chasse dont nous allons parler dans quelques instants. C'est bien sûr au 05 55 52 37 38. N'ayez pas peur d'intervenir. Jean-Marc Père est venu aussi échanger avec vous en direct. À tout de suite.
Turn to where we are.
Dido.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Avec Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse, le 05 55 52 37 38, à votre disposition si vous souhaitez échanger avec notre invité. Et comme annoncé, Jean-Marc, après le comptage du cerf, eh bien, il va être question de ces accidents de chasse qui ont eu lieu. Alors, un accident reste un accident, mais c'est vrai que quand c'est un accident de chasse avec arme, ça prend dans nos têtes tout de suite une autre dimension.
Oui, et puis c'est toujours, ça ouvre toujours des débats récurrents sur l'interdiction de la chasse d'une façon ou d'une autre. On a les chiffres de 2017-2018 qui sont tombés. On a, à l'échelon national, et c'est les chiffres de l'Office national de la chasse, on a 13 accidents mortels, dont 3 qui concernent des non-chasseurs. Par rapport à la campagne précédente, on avait enregistré 18 morts. Donc on peut pas se réjouir, c'est toujours 13 de trop. Dire c'est en diminution, c'est l'objectif de toutes les fédérations de former les gens. À partir de là, on a toujours des comportements qui sont atypiques, que ça soit en matière de chasse, que ça soit en matière de conduite d'un véhicule ou autre. On a des gens qui sont pas suffisamment sérieux, respectueux de la réglementation. Je suis arrivé tout à l'heure à la radio, j'ai quelqu'un qui m'a crié un stop. Donc ça va que je roulais à vitesse modérée, mais ça pouvait faire un carton. Mmh. À partir de là, y a des gens qui ont des fois un comportement inexplicable lié à un effet conjoncturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des accidents mortels, c'est un manquement aux règles élémentaires de sécurité, à savoir le non-respect des angles de sécurité, le tir sans identification et une mauvaise manipulation de l'arme. Et c'est ni plus ni moins... sur ça que portent les formations à l'examen, la formation préalable à l'examen du permis de chasser.
Et c'est l'angle des 30 degrés, la manipulation. Ça peut nous paraître, pardon Jean-Marc, je vous coupe, mais ça peut nous paraître insensé parce que, et vous êtes le premier à nous le dire et à nous le répéter à chaque émission, il y a des règles de sécurité, le premier qui ne les assimile pas ou ne les respecte pas, en clair, s'abarde. Donc on se demande toujours comment ces accidents peuvent se produire. Alors vous l'avez dit, il y a le comportement des personnes, mais quand même.
Ben oui, vous savez, en ce moment, on est dans le cadre encore du permis à zéro. On a pléthore de gens qui passent l'examen.
Ouais.
Et il faut savoir qu'on a, selon les séries, mais des fois, on a 50% des candidats qui sont éliminés, liés à un comportement est dangereux, c'est-à-dire que vous avez les canons du fusil qui se baladent à hauteur d'homme, vous avez tout des tas de comportements qui font que la personne ne finit pas le parcours, il est éliminé d'office par l'inspecteur. Mmh. Et on reprend une formation, mais c'est le même principe dans tous les scénarios. Je veux dire, quand vous passez le... Là, si je sors, je me fais écraser.
Vous ne sortez pas avant 9h30.
Si je me fais écraser, ouais. Hein. Effectivement, mais on va pas remettre en cause l'inspecteur du conducteur qui m'a écrasé, ni le moniteur d'auto-école qui a formé le conducteur. Je veux dire, c'est malheureusement un état de fait déplorable, dont l'objectif est de les diminuer d'année en année, mais quelle que soit l'activité, je veux dire, on parle des accidents de chasse, effectivement, il y en a eu deux récemment, mais moi j'ai entendu aussi cet été, des gens qui prennent des risques considérables dans le massif alpin, et la quantité de morts qu'il y a eu cette année, avec en plus des sauveteurs qui, malheureusement, ils passent aussi des fois parce que c'est dans des conditions déplorables pour aller chercher des gens qui ont pris des risques énormes. Et pourtant, c'est des gens avertis, qui ont une formation, mais malheureusement, on déplore tous les ans des accidents, quelle que soit l'activité.
Alors justement, à propos de la formation, est-ce que avec l'habitude, avec les années, ben on la perd pas de vue aussi, cette formation, tout comme on pourrait perdre de vue les règles du code de la route ou...
Ben c'est peut-être la même chose. Puisque...
Les chasseurs sont suivis une fois qu'ils ont eu leur permis de chasse.
Ben, ils sont suivis pas plus que les conducteurs du véhicule. Hein. Je veux dire, vous avez des règles pour conduire, vous avez des règles pour chasser. Si vous transgressez ces règles, que ce soit en matière de conduite d'un véhicule ou à la chasse, bah, vous êtes traduit par le procureur devant la juridiction compétente. Et dans certains cas, bah, vous prenez des amendes, vous pouvez prendre de la prison, puis vous pouvez avoir une annulation du permis de conduire et du permis de chasse. Et il faut savoir qu'en matière, vous savez, en matière de chasse, contrairement à ce qu'on dit, le retrait du permis de chasser est une peine complémentaire qui peut être prononcée dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que à la première infraction, vous pouvez avoir un retrait du permis pour une durée maximum de 5 ans. Et là, il n'y a pas de notion de point. À la première faute, le permis est retiré et la conséquence, c'est que le permis est nul. Si vous voulez rechasser, il vous faut repasser l'examen. C'est une obligation. Hein ? Donc, on a des règles qui sont hyper rigoureuses en matière de réglementation de chasse. Alors, bien évidemment, bah, dans certains cas, on a des retraits du permis de chasser avec des gens qui n'ont pas eu toujours un comportement et qui arrêtent de chasser. Puis, on a, bah, ça leur sert de leçon et puis ils reviennent dans le droit chemin. Mais ces comportements, ces manquements, plus exactement, on les retrouve dans toutes les activités, notamment en matière de conduite de véhicule. Hein. On a des gens qui sont qui respectent pas grand-chose.
Oui, mais alors justement, à propos de conduite de véhicule, nous en parlions dans l'un de ces dossiers d'ailleurs. On ne sait pas, mais dans les années à venir, il est fort possible que les conducteurs passent un certain nombre d'années et de nouveau un suivi. Je suppose que dans ces accidents de chasse, ça doit vous revenir aux oreilles, la formation doit être remise aussi sur le tapis ou le suivi de ces chasseurs.
Ben, au même titre que quand vous formez les personnes à la conduite hein, d'un véhicule, hein, je veux dire, on se remet sans arrêt en cause par rapport aux formations qu'on dispense et l'accent est porté sur les règles de sécurité et on fait tous les ans des formations responsables de battues. On a formé plusieurs centaines de responsables de battues et on continue toujours notre action dans ce domaine-là. Après, dans le contexte départemental, il y a un certain nombre d'années qu'on n'a pas eu d'accident mortel. Je veux pas dire que c'est, c'est un état de fait. Peut-être que dimanche il y en aura un, j'en sais rien. On en a eu deux années de suite, il y a une vingtaine d'années. Depuis, on n'en a pas eu. Bon, ma foi, on croise les doigts, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, que les gens ici sont meilleurs. C'est un concours circonstance qui fait que. Alors après, on parle de la cohabitation entre les uns et les autres. Ouais. Je pense qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde, pour avoir un comportement rationnel et responsable, pour que tout le monde puisse gérer ses activités, que ce soit la chasse, les promeneurs, les ramasseurs de champignons. C'est-à-dire qu'il faut un respect mutuel. C'est la base élémentaire.
Vous souhaitez intervenir, ces accidents de chasse, comment voyez-vous les choses? N'hésitez pas, Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse, échange avec vous en direct vos interventions, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
La vie du ciel à ton sol, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse.
les enfants de la terre, Yannick Noah, les lionnes.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Notre invité du jour, Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse. Il est question ce matin, entre autres, des accidents de chasse. Certains ont eu lieu récemment, pas dans notre département, mais ils ont eu lieu quand même. Alors Jean-Marc, vous l'expliquez il y a quelques instants, le retrait du permis, oui, mais qu'en est-il des armes? Vous souhaitez intervenir, donner votre avis, chasseur ou non chasseur d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
France Bleu.
Plus rapide, plus sain, plus économique, plus écolo. Et si vous aviez toutes les bonnes raisons pour passer au vélo? Avec Radio France et le Tour de France, roulez l'esprit léger. Pensez au vélo pour toutes les occasions. L'avenir à vélo, on a tout à gagner.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Lynn Darvet d'Aix-les-Bains nous dit pourquoi.
Je porte des lentilles depuis plus de 35 ans et la grande difficulté était d'avoir des lunettes suffisamment bien adaptées pour que la transition se fasse sans gêne. Alors, Optique 2000 a su me proposer des lunettes très légères, progressives et surtout avec lesquelles je me sens bien. Alors aujourd'hui, j'ai le même confort avec mes lunettes qu'avec mes lentilles.
Florian Louveau, l'opticien Optique 2000 de Madame Darvet à Aix-les-Bains.
Chez Optique 2000, nous faisons très attention aux demandes de nos clients et donc nous avons proposé à Madame Darvet un équipement qui correspond parfaitement à ses attentes. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous nous sommes occupés de tous les papiers pour Madame Darvet.
Alors Madame Darvet, satisfaite d'Optique 2000?
Ah oui, totalement. Et mon opticien a tout traité pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Vous êtes propriétaire d'un logement? Vous souhaitez louer solidaire et en toute sécurité? Solia, solidaire pour l'habitat, vous propose de louer votre bien à une famille aux revenus modestes et d'assurer sa gestion locative. En plus, vos loyers sont garantis et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 85% sur vos revenus locatifs.
Solia est un réseau associatif agréé par l'État. Contactez-nous au 0812 13 14 15. Prix d'un appel local plus 5 centimes par minute. Ou sur le site imo.solia.fr.
France Bleu Creuse.
Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre pour ce dossier du jour en compagnie de Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse. Les accidents de chasse, vous nous l'avez dit Jean-Marc, ça conduit au retrait du permis. Mais qu'en est-il de l'arme?
Alors, en matière d'armes, il faut savoir que, indépendamment des peines pénal que vous pouvez écoper quand vous causez, vous êtes à l'origine d'un accident de chasse, quand vous faites valider votre permis de chasser, eh bien, automatiquement, quand on lance la procédure, on interroge le fichier du ministère de l'Intérieur pour voir si vous n'êtes pas fiché, notamment en interdiction de port d'armes ou ainsi de suite, lié à un comportement suite à une condamnation ou parce que, pour diverses raisons, le préfet a des prérogatives en l'espèce pour de chaque département pour inscrire des gens sur ce fichier d'interdiction. Et automatiquement, ça nous dit tout de suite si on peut valider ou pas. Si la personne est considérée comme positive, il y a une procédure qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a un double contrôle qui est fait. Là, c'est plus la fédération qui intervient, c'est plus la fédération départementale, c'est la fédération nationale qui réinterroge le fichier du ministère de l'Intérieur. Si on a confirmation de l'interdiction, eh ben ça s'arrête tout simplement, avec de lourdes conséquences, puisque la personne en question peut être poursuivie pour faux en écriture publique, ça relève du correctionnel. Donc, les gens qui essaient de passer entre les mailles du filet peuvent, des fois, en subir de lourdes conséquences. Au même titre, il y a un autre contrôle. Vous voulez passer l'examen du permis de chasser? On vous demande un dossier. Par contre, l'Office national de la chasse, tous les candidats, puisque c'est elle qui gère les candidatures et qui délivre les permis, si vous êtes fiché sur au fichier FINADAS ministère de l'Intérieur, votre inscription à l'examen est nulle, de fait. Après, vous allez chez l'armurier, vous voulez acheter un fusil de chasse, automatiquement, l'armurier a l'obligation, lui aussi, d'interroger le fichier. Et si vous êtes également en positif, eh ben, vous ressortez du magasin sans arme.
Oui, si vous allez récupérer
donc
une arme,
c'est... Alors, la nouvelle réglementation interdit, alors bien évidemment, on ne parlera pas d'une catégorie de gens qui n'a pas besoin de passer le permis pour récupérer notamment des armes d'Europe de l'Est, et ainsi de suite. Mais vous ne pouvez plus vendre un fusil de chasse de particulier à particulier. Il faut passer maintenant par un armurier. Et l'armurier assure la transaction... Tout simplement parce que il interroge le fichier. Et si, ben malheureusement, il en sort que c'est positif, la transaction n'a pas lieu. Et ça se passe sous sa responsabilité, donc ça veut dire que c'est une prestation de service qui fait payer. Alors il n'y a pas un tarif réglementé, c'est variable d'un armurier à un autre. Donc les choses s'affinent de plus en plus. Mais c'est quand même déjà un carcan administratif qui est lourd, hein, tant pour passer l'examen que pour pouvoir acquérir une arme. Tous les ans, on interroge le fichier de ministère pour voir si vous n'êtes pas sous le coup d'une interdiction. C'est quand même hyper contrôlé. Après, les comportements, bah, malheureusement, ils sont ce qu'ils sont, on les déplore, mais malheureusement, ils sont dans tous les domaines. Je vous parlais tout à l'heure des alpinistes l'été, et cette année, vous avez vu le nombre de noyés qu'il y a eu au bord de la mer. Ça a été considérable. Tout simplement parce qu'on a des comportements, par moments, de gens qui sont pas toujours respectueux et qui veulent dépasser certaines limites. Puis malheureusement, bah, des fois, les limites, on les dépasse.
Il vous reste quelques minutes pour intervenir. 05 55 52 37 38. Madonna.
Le dossier du jour, avec granit et marbre mourier, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Un dossier du jour avec Jean-Marc Père, directeur de la Fédération des chasseurs de la Creuse. Et comme chaque jour, la priorité à vous appelle. Bonjour Simone.
Bonjour.
Bienvenue.
Je vous appelle, moi je voudrais savoir à partir de quel âge les enfants peuvent accompagner le père à la chasse.
Bah, je vais vous faire une réponse un peu atypique. Ça relève de la responsabilité parentale, hein. Je veux dire, ni plus ni moins. Je veux dire, c'est vous qui jugez en tant que parent à quel âge vous devez pouvoir emmener votre enfant en fonction de son comportement, en fonction de l'endroit où vous allez. Il n'y a pas véritablement d'âge réglementé pour pouvoir emmener un enfant à la chasse. La seule chose, c'est que il faut l'emmener dans des conditions où il est en toute sécurité et bien évidemment sous la responsabilité directe de ses parents. Il ne faut pas le confier à quelqu'un d'autre.
D'accord.
Ça répond à votre question, Simone ?
Ben, pas vraiment, mais bon.
Non, c'est peut-être que vous auriez souhaité une autre réponse, c'est ça ?
Ben, c'est-à-dire que j'aurais souhaité une réponse peut-être un petit peu plus ciblée, parce que c'est lors de battues de sangliers et tout ça. Moi, je trouve que c'est indécent d'emmener des enfants en bas âge à la chasse.
Oula, et puis vous devez avoir votre haut-parleur, Simone, parce qu'on
ne vous comprend pas très bien.
Ah. Effectivement, Jean-Marc Père, c'est de la responsabilité des parents, de toute façon.
De toute manière, oui, puisque en fait, on peut pas réglementer, dire à partir de, je sais pas, moi, 10 ans, on peut emmener, avant, on peut pas emmener. Tout dépend du contexte, tout dépend, je veux dire, c'est la responsabilité parentale, que ça soit en matière de chasse, comme ça soit dans d'autres activités. C'est les parents qui gèrent en fonction du risque, en fonction aussi du comportement de l'enfant. Après, c'est aussi simple que ça.
Merci beaucoup, Simone, de votre intervention. Bonne journée à vous. Et tout de suite, nous allons accueillir Daniel. Bonjour.
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Père.
Bonjour.
Voilà. Alors, c'est une petite question. La carabine de jardin, ça consiste à quoi ?
Carabine de jardin, alors selon
en calibre,
si vous voulez, là en règle générale c'est les carabines 9 mm, les 14 mm, ces petits calibres là
qui existent. J'ai une 9 parce que 14 c'est comme un fusil, hein. 14.
Oui, alors pas tout à fait, mais bon, c'est fait pour ces petites carabines là, c'est fait pour des gens qui tirent des grives, qui vont principalement ce type de chasse là, à des distances tout à fait modérées. Hein. C'est pas véritablement une arme qu'on utilise. On peut effectivement, dans certains cas, moi j'ai vu il y a bien longtemps, malheureusement, vu chasser les lapins de Garenne quand il y en avait pléthore avec des 9 mm ou des 12 mm, des petites carabines, ce qu'on appelle des carabines de jardin. Mais en aucun cas, ces carabines-là sont faites pour tirer déjà au-delà de 15 mètres. C'est déjà un peu utopique de vouloir... on blesse plutôt qu'autre chose. Et
oui,
à partir...
Non, c'est pour tirer les moineaux qui grattent dans mon jardin, mais voilà.
Ah oui, faites quand même attention, parce que dans certains cas, déjà, par rapport... il vous faut quand même déjà... avoir un permis de chasse. Deuxièmement, faire en sorte que vous tiriez pas sur des espèces protégées, parce que c'est...
Oh ben, le moineau, il est pas protégé.
Non, mais je donne un cadre, hein, que vous préleviez après, et puis la troisième règle, c'est les règles élémentaires de sécurité.
Hein. Oui.
À partir de là,
c'était pour savoir si avec la 9 mm, je pouvais m'en servir.
La 9 mm, vous pouvez même aller à la chasse, à la perdrix ou au lièvre si vous voulez qu'une 9 mm. La seule chose, c'est que dans ce scénario-là, blessé, vous n'allez jamais pouvoir tuer un animal comme il se doit. Donc,
Non, moi je fais la part des choses.
D'accord.
Moi, c'est pour éliminer. Enfin, c'est pas des prédateurs, mais enfin, bon, c'est ennuyeux. Quand il y a 50 moineaux dans votre jardin.
Ben voilà, Daniel, vous avez eu votre réponse.
Réponse, oui.
Non.
Allez, monsieur Père, bonne journée. Si.
Bon, vous m'avez fait peur, Daniel.
Non, pas de peur.
Bonne journée. Allez. À vous. À bientôt.
Au revoir.
Jean-Marc Père, en échangeant avec Daniel, vous avez reprécisé, vous avez bien fait, que même dans le cadre d'une carabine de jardin, il fallait un permis de chasse.
Ah bah oui, on peut pas, alors après...
Vous pensez qu'il y a des gens qui chassent sans permis ?
Comme il y a pléthore de gens qui conduisent sans permis de conduire,
ouais.
Je crois que ça existe. Je pense que toute proportion gardée, il y a beaucoup moins de gens qui chassent sans permis que de gens qui conduisent sans permis de conduire.
Mmh. Alors ensuite, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, c'est une question de comportement, une question de respect de l'autre également, mais je suppose que les associations qui sont contre la chasse lorsqu'il y a ce genre d'accident doivent vraiment monter au créneau, non ?
Ah bah tout à fait, mais tout est bon pour remettre en cause cette activité, notamment la remise en cause de l'activité chasse le week-end. comme avant-hier, c'était la vénerie qui était mise en point de mire. Dès l'instant qu'il y a un incident notoire, on remet ça sur le tapis et on a tout de suite là ça s'appelle c'est du populisme. Il y a des gens, notamment des hommes politiques, qui reprennent ça en disant oui, il faut interdire la chasse le dimanche et ceci et cela. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il suffit simplement, d'avoir un comportement respectueux vis-à-vis d'autrui. Je veux dire, c'est en matière de chasse comme au quotidien.
Et tout de suite, nous allons accueillir Gilles. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Gilles. Nous vous écoutons.
Oui, je suis donc un ancien chasseur. Mmh. J'ai passé mon permis il y a une vingtaine d'années. J'ai arrêté de chasser, ça fait à peu près 15 ans. Et bon, j'ai donc passé l'examen. Et on m'a toujours dit de chasser à moins de 150 mètres des habitations, des lignes électriques, enfin des chemins de terre, etc. Et je voudrais savoir pourquoi on autorise les chasseurs postés en bordure de route. Comme Bernard Père a dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'ils pourraient se mettre ailleurs qu'en bordure de route, parce qu'il m'est arrivé de passer au moment où ils mettent les panneaux chasse en cours, et les chiens ont coupé juste au moment où je passais en voiture. J'ai été obligé de freiner, de ralentir. Je pense que se placer en bord de route...
Ça vous semble dangereux?
Oui.
Jean-Marc Père.
Il y a deux choses qu'il faut distinguer. L'obligation de signaler un danger temporaire, c'est une obligation de moyens que chaque organisateur se doit dès l'instant qu'on est sur une zone qui peut être où le gibier traverser une route départementale. Donc là, on a quitus du conseil départemental pour pouvoir effectuer une signalisation temporaire. Et quand ça relève du maire, il faut l'autorisation du maire pour signaler un danger temporaire. Ça, c'est une obligation de moyens. Hein, c'est une obligation. Le fait qu'un gibier traverse la route, c'est signalé. On vous signale un danger temporaire. C'est aussi à vous d'être vigilant. Moi aussi, je traverse des endroits où c'est signalé. Bon, à partir de là, faut être vigilant. Mais on n'empêche pas le gibier de passer là où il a envie de passer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, les routes départementales, c'est pas un lieu de chasse.
Pourtant,
c'est pas un lieu de chasse, ouais. Les routes départementales, ni les routes communes. Hein, tout simplement, il y a suffisamment d'endroits pour pouvoir se poster d'un côté ou d'autre, en respectant les règles de sécurité, notamment le fait de pas tirer, bien évidemment, en direction de la route. Hein, le fait de respecter le fait de pas tirer dans la traque, le respect des angles de sécurité, d'avoir un tir fichant, ça fait partie du béaba qu'on doit avoir quand on chasse le grand gibier, notamment.
Gilles ?
Oui. Justement, moi, tous les chasseurs que j'ai vus, là, c'est sur des routes départementales.
Après, il faut voir si ces gens-là sont en action de chasse ou pas. Je peux pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été verbalisés par la garderie qui est en action de chasse sur l'emprise d'une route départementale, oui.
Ils sont en poste fixe, là. Enfin, ils attendent certainement que le gibier sorte de la traque.
Vous voulez, lors des formations de battue, on leur donne les éléments nécessaires, les clés nécessaires pour que ça s'organise du mieux possible. Dans certains cas, il y a des rassemblements de gens qui sont sur la route. C'est pas pour autant qu'ils sont en action de chasse. Après, chaque cas est un cas d'espèce.
Oui, mais c'est quoi l'action de chasse? Parce que lorsque vous voyez un chasseur sur le bord de la route avec son arme, il est bien en action de chasse.
On peut le penser, oui, puisque effectivement, quand on a une arme, on peut effectivement, sauf si il a retenu le minimum qu'on lui a appris, c'est-à-dire que si on parle d'un fusil, généralement, c'est un superposé ou un juxtaposé, et l'arme est ouverte. Donc, quand on aperçoit une arme ouverte, il n'y a pas de danger. Et qui plus est, lors des formations, quand on n'est plus en action de chasse, l'arme est ouverte. Et il n'y a, bien évidemment, aucune munition à l'intérieur. Ça, c'est les règles élémentaires qu'on dispense lors des formations pratiques à l'examen du permis de chasser.
Vous faites bien de les rappeler.
Et c'est fondamental, puisque si vous ne respectez pas ce béaba-là, vous êtes éliminé d'office. Voilà.
Voilà la réponse, Gilles.
Bonne
journée à vous. Et tout de suite, nous allons accueillir Jean-Paul. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Jean-Paul.
Alors voilà, je suis très en colère après l'ancien auditeur, là, pas celui-là, mais l'autre d'avant, là, avec son fusil de jardin. J'aurais vraiment lui remonter les bretelles parce que c'était une honte d'entendre parler comme ça. Prendre un fusil pour tirer sur les moineaux. Hein, c'est quand même une honte de voir ça, c'est un plaisir au-delà des pensées humaines. Hein. Parce qu'il y a quand même des solutions, on peut mettre des pétards, on peut mettre des produits et ou alors mettre un piquet avec des banderoles dessus, ainsi de suite. Mais pourquoi tirer sur les moineaux?
Eh bien là, Jean-Paul, effectivement, Jean-Marc Père a répondu, lui, au niveau de la réglementation, Jean-Marc. Mais après, voilà, c'est oui, chacun là,
C'est même plus une question, excusez-moi, c'est même plus une question de réglementation. J'ai une question de personnalité. Il faut vraiment être un... C'est immonde de tirer sur des petits animaux comme ça. Il y a d'autres choses à faire. Comme je vous ai dit, on peut mettre des pétards, on peut mettre autre chose, des produits pour les emmener plus loin, mais tirer dessus. À ce moment-là, il faudrait changer, mettre le fusil au moineau puis tirer sur lui.
Hein. Jean-Paul, merci beaucoup de votre intervention. Alors malheureusement, Jean-Marc Père, nous n'avons plus le temps de prendre d'autres appels. Là, je m'adresse à Isabelle, à l'accueil de France Bleu Creuse, mais nous aurons l'occasion, bien évidemment, de revenir sur le sujet. Jean-Marc, bonne journée, à bientôt.
À bientôt.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Demain, changement de décor, nous accueillerons Gina Bria. Gina Bria, une invitée qui vient d'ajouter une autre compétence à celle de coach en développement personnel et professionnel, puisqu'elle est désormais praticienne en hypnose. Nous verrons en quoi cela peut nous être utile demain dès 9h.